Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 133 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes d'accompagnement en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez, vous inspirer de nouvelles habitudes de vie plus saines et vous motiver à passer à l'action pour gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, l'épisode 133 du podcast est un épisode interview, le cinquième de ma série Oser, après Sabrina qui a osé devenir auteur, Guillaume faire du stand-up, Nathalie Simon vivre une vie pleine d'audace et Estelle se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette série a pour objectif de vous inspirer à travers des histoires passionnantes, mais aussi de décoder ce qui permet d'oser et je l'espère vous donner le petit déclic qui vous manque pour vous aussi oser et vous connecter un peu plus à vous. La connexion à soi, le fait d'être à sa place, c'est un des cinq piliers de santé indispensables selon moi. Cette semaine, je reçois Carole Marchais, fondatrice de la marque de cosmétiques vegan, bio et éco-conçue, les Apicuriennes. J'ai connu Carole il y a plus de 10 ans lorsque nous habitions toutes les deux encore à Paris. Carole est une femme engagée et pleine d'énergie avec une solide formation de chimiste puis de cosmétologue. C'est pendant ses expériences professionnelles de plus de 10 ans dans le secteur de la beauté qu'elle prend conscience des enjeux liés à l'environnement et au développement durable. Bosseuse, Carole continue de se former puis d'observer avant de lancer en 2015 la première ligne joyeuse de dermocosmétiques bio et vegan aux plantes françaises du sud-ouest, les Apicuriennes. Lorsque je rencontre Carole, elle en est au tout début de son projet. Il est encore un peu flou, elle ne sait même pas si ça va devenir une marque ou une entreprise, mais elle sait déjà où elle veut aller et sa détermination est forte. Une détermination qui ne cessera de la porter pour réaliser son projet magnifiquement bien et continuer chaque jour de prendre soin de la planète et des autres à travers ses soins et ses valeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de son passage à l'acte, comment elle a osé se lancer et s'attaquer au marché ultra concurrentiel de la cosmétique. Carole, bonjour, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Comme je le disais en intro, on se connaît depuis de nombreuses années. On s'est un peu perdu de vue, mais jamais vraiment complètement. On est toujours quand même resté proche dans le cœur, on va dire, même si géographiquement, on s'est un peu éloigné. En tous les cas, je suis hyper contente que tu aies accepté mon invitation pour nous expliquer ton parcours qui est quand même plutôt remarquable. Est-ce que tu peux peut-être, pour commencer, nous expliquer un peu ton histoire, comment tu étais avant de te lancer dans cette belle expérience, ton contexte, peut-être tes formations, te présenter en quelques mots?
Ok, bah tout d'abord, merci beaucoup Julie pour ton invitation et pour m'avoir proposé de partager cette expérience qui est pour moi une très belle expérience, une belle aventure que j'ai beaucoup de plaisir à raconter. Donc pour la petite présentation, je suis Carole, j'ai 45 ans et je me suis lancée il y a maintenant 10 ans dans l'aventure des Apicuriennes. Et donc un peu mon parcours en quelques mots, alors il est assez logique j'ai envie de dire. Tout s'est enchaîné en fait d'une manière assez... assez logique, voilà, c'est le terme. À la base, donc j'ai fait des études de chimie. Après, j'ai fait des études de cosmétologie. Je suis partie à Versailles. J'étais sur Toulouse, je suis partie à Versailles pour faire ces études-là. Ça me tenait vraiment à cœur de faire des études dans ce domaine. Et puis, j'ai fait un contrat d'apprentissage pendant 3 ans dans un grand groupe dans le domaine des parfums et de la cosmétique. Voilà, donc ça a commencé comme ça, ma petite aventure dans les cosmétiques.
Et pourquoi les cosmétiques déjà? C'est quelque chose que tu aimais depuis toujours? Tu étais très coquette? Tu en utilisais beaucoup? Pourquoi cet univers?
Alors là, je vais te donner ma vision de l'époque, mais après, on comprend plus tard en cheminant d'où ça vient. Mais c'est vrai que j'ai été baignée assez tôt dans le domaine des cosmétiques. Alors, pas le côté coquette, mais je voyais ma mère qui avait beaucoup de produits. Donc, j'allais un peu fouiner dans ses produits, dans ses petits échantillons. Et puis, elle se parfumait beaucoup. Et j'adorais passer après elle, en fait, dans la salle de bain parce que ça sentait très bon, très fort. D'accord. Et figure-toi que je concoctais mes petites potions. J'avais une cabane en bois dans le jardin et je faisais macérer des pétales de fleurs pour faire des parfums.
Ah, génial.
Et je mélangeais les petits échantillons de fond de teint et de crème. Okay. Je faisais déjà moi. Mes petites textures. Donc, ça vient vraiment de là.
Oui, ouais. Donc on va comprendre après la suite, encore une fois, logique.
Ouais, ok. Ouais, exactement. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé... après mes études de cosméto, j'ai été embauchée dans le groupe dans lequel j'avais fait mon contrat d'apprentissage. J'ai été chargée de développement de formulation pendant de longues années. Mm-hmm. Et puis, chemin faisant, j'ai eu envie de faire un petit peu autre chose, de me pencher un peu sur le marketing et la communication pour avoir une vision plus globale de l'industrie. Parce que, quand on est en laboratoire, parfois, on peut être un peu fermé à tout ce qui se passe autour, et j'aime bien m'intéresser à un peu tout. Je suis assez curieuse de nature et j'aime bien tout comprendre, donc il me fallait une autre facette. Donc j'ai repris des études en cours du soir et du week-end pour me former donc au marketing et à la com. Ensuite, dans l'entreprise où j'étais, je suis passée dans le service marketing. Et puis, en fait, pendant cette reprise d'études, c'est un peu là où toute ma vie a basculé, on va dire. Quand j'ai repris ces études, j'ai eu la chance de faire Alors, à l'époque, ça s'appelait une mission professionnelle pour une entreprise qui était un cabinet de marketing en développement durable. Donc, en fait, ils accompagnaient les marques qui avaient une approche RSE ou voilà, une approche développement durable. Ils les accompagnaient pour mettre en valeur leur marketing. À l'époque, alors j'ai un peu du mal avec les dates et la chronologie, mais à l'époque, c'était très rare, il n'y avait pas grand-chose dans le domaine. Et en fait, cette mission, elle m'a appris plein de choses. C'est à cette époque, en fait, que j'ai commencé à m'interroger sur l'impact de l'homme sur l'environnement, mais à commencer juste par mon impact à moi, tous les jours. J'avais pas vraiment une approche environnementale, j'étais pas du tout écolo ni rien, mais là, voilà, j'ai découvert plein de choses et j'étais super choquée quand une personne de ce cabinet a dit que, en gros, les Français consommaient l'équivalent de, je crois, 2 planètes ou 2,5 planètes par jour, les Américains 5. Et c'est vraiment ça, là, je me rappellerai toujours cette slide qui m'avait profondément choquée et qui a planté les petites graines. Et c'est là que j'ai commencé à me remettre en question. Voilà.
Ok. De toute manière, c'est le cas, je crois, pour beaucoup de personnes. Quand on prend conscience de tous ces impacts-là, c'est dur de revenir en arrière. Ou alors, on fait l'autruche et puis on décide de ne pas savoir. Mais exactement. Quand on sait, je trouve que c'est compliqué après de... Tant exactement. Qu'on ne sait pas, bon, la vie peut suivre son cours. Mais à partir du moment où on a des infos comme ça, effectivement, moi aussi, j'avais eu des déclics comme ça sur certaines infos et après, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, ok. Donc,
clairement, mais c'est vraiment clairement ça, vraiment. C'est...
Donc, ouais. Un déclic à ce moment-là.
Un déclic. Du coup, ça a bien tombé parce que j'étais dans cette école, on me demandait de faire un sujet de, je ne sais plus, de thèse ou de mémoire. Donc, du coup, j'ai choisi la cosmétique bio. Et là, je me suis mis à éplucher franchement tout Internet pour savoir ce qu'il en était de ce marché. Donc, j'ai vraiment répertorié tout ce qui se passait et ça m'a permis de cheminer aussi au niveau de mon poste.
Ouais.
Voilà, quels ingrédients j'utilisais, quels étaient ceux qu'il fallait peut-être commencer à proscrire. Et puis, donc, après ce mémoire, il y a eu encore un autre sujet qui était une thèse professionnelle. Donc là, j'ai choisi justement l'industrie de la cosmétique face au développement durable. Et pareil, ouais. Voilà, j'ai passé des nuits entières à travailler le sujet. J'étais tellement passionnée, en fait, j'arrivais plus à m'arrêter.
Oui, parce que tu es une grande passionnée, hein, on va le comprendre tout au long de l'interview, et tu es aussi une grosse bosseuse. Donc, les deux ensemble, ça permet quand même de soulever des sacrées montagnes.
Okay. Exactement, j'adore apprendre, en fait. Donc, je pense que je serai une éternelle étudiante, et donc ça explique un peu aussi voilà, mon cheminement, ouais, complètement.
Ok.
Donc voilà, donc là, on était après le déclic où j'avais pu éplucher un maximum d'informations sur Internet. J'étais capable de parler du sujet en profondeur et de voir ce qui manquait justement à l'industrie pour être encore plus vertueuse. Et puis bon, forcément, en cheminant dans ce sens, l'entreprise dans laquelle j'étais, il commençait à y avoir un peu une perte de sens. J'étais plus alignée. J'étais notamment très embêtée au-delà des aspects écologiques, mais j'étais embêtée par les aspects humains, en fait, de l'industrie cosmétique. Ce côté dictat de la beauté parfaite où tous les produits obligeraient presque les femmes à être jeunes, minces et parfaites. Ça, c'est vraiment un discours qui me gênait profondément. Et à côté de ça, le fait qu'on propose des produits qui ne soient pas forcément sains pour la santé et qui ne contiennent pas grand-chose, mis à part de l'eau, ça a créé vraiment une dissonance chez moi et je ne me voyais plus continuer dans ce milieu de la beauté, donc j'ai décidé d'en partir.
Ok. À ce moment-là, il y a déjà une petite idée de faire quelque chose de ton côté ou pas du tout ? Juste
non, pas, okay. Pas du tout de créer une entreprise, vraiment de, justement de quitter la beauté. À l'époque, je pensais mettre un point final à cette industrie. J'avais plus d'affinité, plus de...
Ok, ça marche. Jusque-là, c'est donc, très clair. Alors voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors là, bien sûr, hein, on commence à inquiéter les parents. Mais c'est même, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu étais bien établie, j'étais stable, c'était super. Là, j'ai décidé en fait de faire du bénévolat dans des ONG. Donc, j'ai commencé par un premier bénévolat dans une ONG dans le domaine du sport. Et puis après, j'ai fait du bénévolat dans la fondation Good Planet, donc la fondation de Yann Arthus-Bertrand.
Yes.
Où j'ai eu la chance d'être finalement embauchée en tant que responsable de communication. Et donc, je suis restée environ un an et demi à la fondation et j'ai appris plein de choses. Donc, à l'époque, j'étais jeune et hyper militante et un peu trop militante d'ailleurs à cette époque-là. Mais en tout cas, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses que j'avais envie d'exprimer et de défendre. Donc, ça s'est matérialisé par ces quelques années, ou en tout cas moi, à la fondation de Yann Arthus-Bertrand. Et puis, en fait, à cette époque-là, je me suis dit quand même, ça serait bien que je regarde ce qui se passe dans la cosmétique. Est-ce que ça n'a pas changé depuis ? Est-ce que ça n'a pas évolué ? Et donc, je me suis mis à suivre discrètement le milieu. Et j'ai ouvert un blog sur la cosmétique responsable. En fait, j'analysais un peu les marques et leur côté vertueux. Donc, ce n'était pas du tout un blog avec des avis produits comme ça a été la grande mode après, mais plus j'évaluais en fait les marques et leur stratégie RSE et puis un peu aussi leur discours marketing vis-à-vis justement de ces dictats de la beauté, ces promesses qu'on voit partout sur les produits qui ne sont pas toujours des promesses tenues à mon sens.
Oui, et puis qui vont dans une direction surtout qui ne partagent pas non plus tes valeurs, qui ont un but final qui n'est pas forcément...
C'est ça, pas dans des produits forcément sains au niveau des compos, et on est plus dans des promesses de jeunesse, de teint parfait, voilà, toutes ces petites choses dont je parlais tout à l'heure, qui m'agacent et qui m'agacent toujours d'ailleurs, elles existent encore malheureusement. Donc voilà, donc j'ai créé ce blog que j'ai pas mal alimenté et puis j'ai eu envie d'interviewer des acteurs du domaine, donc je suis allée voir des jeunes créateurs ou des jeunes créatrices de la cosmétique bio, voilà, donc j'ai un peu raconté leur histoire, ce qu'elles faisaient de bien, et puis à force d'avoir toutes ces infos sur le domaine, j'ai voulu écrire à l'époque un guide blanc sur les bonnes pratiques de la cosmétique dite vertueuse à mes yeux. Donc là, j'ai fait une cinquantaine de pages. Donc, je l'ai vraiment écrit, hein, ce guide de A à Z. Et après, je me suis dit, comment je vais me faire publier et à qui je vais l'adresser, à des pros ou à des particuliers, aucune idée. Donc vraiment, j'ai fait des petites recherches. Hein. Je suis allée voir des gens qui avaient écrit des livres pour avoir quelques pistes. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, en fait, c'est un peu prétentieux. Qui c'est qui va lire ça ? C'est un sujet qui me fascine à moi, mais est-ce que ça va fasciner des gens ? Peut-être pas, c'était un peu tôt. À l'époque, donc je me suis dit, non, ce livre, je vais rien en faire. J'ai pris du plaisir à l'écrire, j'adore écrire, voilà, mais ça sera juste un travail que j'ai fait pour moi, on va dire. Et puis après, si on veut vraiment les détails de ce qui s'est passé...
Tu fais hyper bien monter la sauce, c'est magnifique, vas-y, on est pendu à tes lèvres.
À ce stade, toujours pas d'envie particulière de créer une entreprise, c'était pas du tout prémédité. Si ce n'est que, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'aussi, quand j'ai fait mes premières périodes de bénévolat, j'avais fait aussi une autre formation pendant un an sur l'éco-conception et le développement durable. Mm-hmm. Et à cette époque-là, j'avais été très, très charmée par une conférence qu'avait fait Anne-Sophie Novelle sur le vivre ensemble.
D'accord.
Donc, c'est elle m'avait donné plutôt une dimension humaine à tout ce qui est l'écologie. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et c'était l'époque où commençaient les balbutiements de l'économie participative.
Ouais.
Et je ne sais pas comment c'est né, mais peut-être aussi à l'expérience que j'avais eue dans l'ONG liée au sport, je m'étais dit, tiens, si je créais une plateforme collaborative de prêt de matériel de sport. Voilà, il y avait eu ça, voilà, j'en parlais un petit peu à droite à gauche, et puis après je m'étais dit non, c'est un peu trop tôt par rapport à cette économie qui commence tout juste à se développer. Et puis, j'ai pas d'appétence particulière pour le sport. Je suis pas une fan au point de, voilà. Et puis voilà, ça avait été passager et je me suis pas dit derrière, bon, faut que je trouve une autre idée pour créer une entreprise. C'était vraiment pas.
Non, mais on sent poindre quand même plusieurs petites choses qui n'aboutissent pas, mais qui poussent un peu,
ouais, quoi,
qui sont là
ça.
Et qui sont, voilà, dans un début quand même d'envie de.
De créer quelque chose.
De créer quelque chose pour faire bouger aussi un peu les lignes avec ce côté engagé derrière, quoi.
Exactement.
Ça, t'es ouais. En train de poser les fondations, en fait.
Exactement. C'est un très, très bon résumé. Voilà. Il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi tu crées pas ta boîte? Quand je parlais du guide blanc, mais pourquoi tu crées pas ta marque? Putain, non, c'est trop de choses à faire. Et puis, c'est là où, voilà, c'est vraiment les coulisses, là. Un soir, je rentrais d'une soirée avec mes amis. Et en fait, je me suis mis à écrire en résumé ce que serait cette marque idéale. Et au petit matin, quand j'ai relu, je me suis dit, mais en fait, c'est l'idée d'une boîte, ça, de créer une marque avec ces préceptes-là.
Tu l'avais.
Donc là, c'est comme ça qu'on va dire que ça a germé vraiment.
Génial.
Mais il y a eu un autre rebondissement qui était pas de, allez, c'est parti, je me lance. Je me suis dit, en écho à cette conférence du Vivre Ensemble, je vais parler de ce projet à plein de gens autour de moi et je vais essayer de co-créer cette marque plutôt que juste la créer avec mes envies, mes valeurs, mes engagements, mon envie de changer le monde. Je vais voir un peu ce qu'attendent les femmes, qu'est-ce qu'elles ont envie de trouver demain comme marque, comme produit. Et donc, j'ai pendant 2 ans co-créé la marque de A à Z, où vraiment je posais un nombre de questions assez importantes pour... d'ailleurs, tu fais partie des co-créatrices, donc tu sais.
J'allais dire, je me souviens de cette période,
voilà,
tout à fait.
J'ai épluché des tonnes de questionnaires qui ont été hyper enrichissants et qui m'ont permis de co-construire cette marque. Parce que je me suis toujours dit, si dans cette démarche de co-création, je vois qu'il n'y a pas d'intérêt... je continuerai pas, mais quand j'ai vu l'enthousiasme qui s'est dessiné, c'était hyper grisant et vraiment là, je me suis dit, allez, j'y vais. Hop, c'est parti.
C'était un peu la classique analyse de marché, on pourrait dire, finalement. Ça t'a un peu servi à ça aussi.
Ouais, mais oui et non, parce que justement, j'avais fait de façon formelle des études de marché quali-quanti dans ma précédente entreprise, mais là, j'avais envie d'un côté beaucoup moins formel, et je parlais quand même avec mes mots, j'étais plus, on va dire, authentique et naturelle qu'un petit questionnaire d'études de marché hyper formel, et c'est là que j'ai senti à travers les réponses des gens qu'ils aimaient... ce contact, c'est cet échange et cette façon d'appréhender une marque avec elle. Donc oui, bien sûr, ça fait office d'études de marché, mais il y avait quand même un côté très informel.
C'était plus que ça. Il y avait un côté très impliquant aussi des personnes qui étaient dans ce groupe de co-création. Il y avait un côté où tu les impliquais dès le départ, en fait. Donc finalement, tu créais aussi la marque qui te ressemblait, mais qui allait aussi leur ressembler à toutes. Nous ressembler à toutes, ouais. Ok. Donc du coup, je fais un petit arrêt sur image. Moi, j'aime bien essayer de comprendre si le fait d'oser, ça a été un déclic ou un long processus. Finalement, inconsciemment pour toi, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, mais ça a été un long processus pour en arriver là, mais jamais finalement avec cette idée finale. Et puis l'idée, ça a été quand même un déclic.
Exactement. Finalement, ça a été un enchaînement de plusieurs petits déclics.
C'est ça.
Qui en ont créé un grand... mais voilà, ça n'a jamais été prémédité, on va dire. Ça n'a jamais été voulu depuis des années. Mais de fil en aiguille, on est arrivé à quelque chose de très logique.
Ouais, et puis tu t'es jamais dit, j'ai envie de monter une boîte, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai envie de monter un truc. Non, c'est plus finalement toutes ces prises de conscience cumulées, ces rencontres avec toutes ces personnes qui t'ont finalement poussé et porté dans le fait d'aller plus loin et d'être juste toi à la tête de cette mise en œuvre. Mais c'était pas pour une vocation juste entrepreneuriale.
Exactement, exactement. Après, j'avais été très inspirée par Anita Roddick, qui est une ex-fondatrice d'une marque de cosmétiques très connue que je ne citerai pas.
Okay.
qui est malheureusement plus de ce monde, mais qui a été pionnière dans plein de domaines, le commerce équitable, militer contre les tests sur les animaux. Justement, toute la publicité qu'elle faisait, c'était de l'adtivisme, c'est-à-dire qu'elle militait à travers ses publicités, et elle m'a énormément inspirée. Voilà, donc c'est vrai qu'elle, elle a vraiment, le fait d'avoir étudié son parcours, lu un de ses livres, je pense que
ça a participé.
Ça, ça a joué dans le déclic aussi, ouais.
À quel moment, puisque finalement, on comprend que tout s'enchaîne assez naturellement, assez spontanément, est-ce qu'il y a un moment où tu réalises ce qui est en train de se passer et tu te dis, oulala, dans quoi je suis en train de m'embarquer, et que tu commences à douter, à avoir peur, ou alors est-ce que jusqu'à la naissance vraiment et à la construction concrète du premier soin, tout s'est fait naturellement sans trop que tu réalises en fait, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, complètement. Alors non, je suis quand même assez mesurée dans ce que je fais, même si parfois je peux avoir un côté impulsif, tout feu, tout flamme. Donc j'avais envie de me lancer dans cette aventure et à aucun moment donné je me suis dit ça va pas marcher. Pour moi, c'était sûr que ça allait marcher. Mais par contre, je me suis posée avant de me lancer en me disant je vais quand même m'engager dans quelque chose où je vais mettre en danger ma sécurité, notamment financière. J'étais en plus en fin de droit de chômage, donc j'avais pas une grande marge devant moi. J'étais célibataire à l'époque, donc j'avais pas un conjoint qui allait subvenir à mes besoins. Bref, j'étais pas au meilleur de ma forme, mais par contre, comme j'avais été économe pendant mes années précédentes, voilà, j'avais de quoi démarrer cette expérience. Mais justement, j'ai voulu poser un peu des chiffres sur un papier avec D'accord. des gens qui avaient monté des boîtes. Parce que même si j'ai un parcours scientifique, je déteste les chiffres, donc c'est très antinomique, mais c'est comme ça. Et tout ce qui était business plan et compagnie, c'était des mots qui me faisaient ultra peur. Donc, j'ai quand même essayé de jouer le jeu pour voir combien ça représentait, combien il allait falloir avoir d'argent pour démarrer cette entreprise. Parce que quand on crée une société de service, ça demande quand même beaucoup moins de financement que développer des produits. Donc, il y a quand même un risque majeur qu'il est important d'avoir en tête et pas se lancer pour le coup là tout feu, tout flamme. Voilà. Donc, j'ai quand même passé quelques mois sur ces chiffres. Comme je suis assez déterminée, voilà, j'ai voulu vraiment comprendre comment ça se construisait, ces tableaux, et pas juste me les faire faire par quelqu'un. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus.
Ça a continué à t'encourager ou tu as eu des moments de doute ou des passages où tu t'es dit, bon, OK, tout le monde s'emballe, mais en fait, c'est pas du tout réalisable, mon histoire ?
Si, j'ai eu des doutes parce que les chiffres, ils font peur. Voilà, quand on est salarié depuis plus de 10 ans et que tout d'un coup, tu te retrouves avec un tableau de chiffres, ça n'a jamais fait partie de ton quotidien. Et puis, tu commences à prendre conscience que tu vas être chef d'entreprise et que tu vas devoir avoir plusieurs casquettes. Oui, tu doutes. Je trouve ça plutôt sain, en fait, de s'être posé toutes ces questions en amont, d'avoir tout bien posé sur la table. Donc, il y a eu cet aspect financier et il y a aussi eu l'aspect bien s'entourer. Donc moi, je me suis assurée de voir que j'étais bien entourée au niveau de mes proches. Ça m'a permis de faire aussi un peu de vide au niveau de toutes les personnes toxiques qui m'entouraient.
Voilà. Ok, c'était le moment de virer les toxiques de partout, des crèmes et de l'entourage. Ok.
Voilà. Et puis, de se faire accompagner à droite, à gauche, un maximum, parce que créer en étant seule et isolée, c'est juste pas possible, je pense. Donc j'ai quand même un peu sécurisé tout ça, voilà.
Est-ce que tu penses que tu avais un tempérament ou tu as un tempérament, on a compris, bosseuse, curieuse, c'est déjà des belles qualités pour l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu penses que tu as un socle peut-être familial ou d'après ton histoire qui était déjà rassurante et qui t'a permis aussi de sauter le pas plus facilement, ou est-ce que tu dirais que pas du tout, mais que par contre tu t'es entouré de gens pour te recréer ce socle un peu rassurant?
Ouais, elle est hyper intéressante ta question, notamment en plus actuellement, j'ai des réponses à toutes ces choses-là. Mais non, alors justement, dans ma famille, pas du tout d'entrepreneurs ni rien, au contraire, plutôt des gens qui ont été dans la même entreprise pendant des années. Et moi, pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, j'ai baigné dans le manque de confiance en soi. Donc, je pense que c'est normal que je n'ai pas eu envie de créer une entreprise de manière très rapidement, parce que j'avais vraiment pas confiance pour faire ce genre de choses. Et je pense que j'ai créé justement pour me prouver que je pouvais trouver cette confiance en moi.
Et peut-être parce que l'engagement était plus fort finalement. Qu'est-ce qui t'a porté ? C'est l'envie d'aider ? C'est l'engagement pour te dire « je veux participer à ce mouvement qui propose des solutions meilleures pour l'environnement, pour la santé, pour l'autre ?» Qu'est-ce qui t'a porté à ce moment-là ?
C'est exactement ça. C'est l'envie en gros de changer le monde à mon niveau.
Ok. Voilà. Ouais.
C'est un peu prétentieux, mais on est nombreux à dire ça, je pense. Ouais.
Non, mais après, on le fait tous à notre manière. Exactement. Mais effectivement, il faut toujours quelque chose d'énorme et de bien plus gros que soi qui porte, en fait, pour avancer. Donc,
complètement.
Non, te connaissant un petit peu, c'est loin d'être prétentieux. Je crois que c'est pas un mot qui pourrait te représenter. Ok. Donc tu y vas, tu t'entoures, du coup tu prends confiance et puis tu fais toutes les démarches parce que tu es quand même très sérieuse, que tu travailles beaucoup et tu parviens donc, si je ne m'abuse, à lancer 4 premiers produits en même temps, directement.
Exactement, voilà, j'ai lancé une première gamme de soins de 4 produits, ce qui d'ailleurs à l'époque était vraiment, entre guillemets, dangereux parce que souvent les marques, elles lancent une vraie gamme complète d'entrée. Mais j'ai choisi de commencer de façon sobre. De toute façon, c'est aussi les valeurs des apicuriennes, c'est le minimalisme. Donc l'idée, c'est d'insuffler une routine courte avec peu de produits. Donc c'était aussi normal, voilà, que je commence de façon minimaliste.
Comment ça s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tes premiers produits ont vu le jour, que les premières clientes ont commandé? Qu'est-ce que tu as ressenti?
Alors déjà, il y a eu une phase en amont parce que j'ai fait une campagne, un financement participatif via Ulule. Donc déjà, c'était 6 mois avant le lancement officiel. Donc déjà, ça commence à mettre les doigts dans le cambouis, si je puis dire. Mm-hmm. Tu commences déjà à faire de la communication auprès de tes proches, de ta famille, de ton cercle 1, 2, 3. Et puis, ouais. Toutes ces personnes qui avaient co-créé. Donc c'était bien, voilà, de démarrer comme ça en douceur, de pouvoir... voir l'appétence pour les produits, pour le projet, de voir les gens qui étaient hyper enthousiasmés. Moi, ça me grisait au quotidien, c'était vraiment hyper agréable. Bon, tous les jours, j'étais sur mon ordinateur, sur ma boîte mail, et je rafraîchissais pour voir si j'avais reçu une contribution.
J'imagine. Et j'imagine que ça a duré un petit moment.
Ah oui, ça, c'était vraiment mon quotidien, faire de la relance et puis voir qui apportait son soutien au projet. Et quand j'ai lancé le 5 décembre, pareil, au petit matin, j'ai ouvert mes mails et là, j'ai reçu ma première commande. C'était une grande joie. Une grande joie, et puis voilà, j'attendais que les commandes arrivent, hein. Au début, voilà, c'était un peu de l'attente, mais ça s'est mis quand même bien en route avec tout ce bouche à oreille qui avait eu lieu et qui a profondément aidé la marque à se faire connaître à ses débuts, ouais.
C'est ça. En fait, ce qui t'a soutenu et ce qui t'a conforté et renforcé aussi dans ce lancement, t'a servi aussi finalement à démarrer en douceur avec des personnes déjà intégrées au projet, des personnes, donc tes premières clientes, j'imagine. Ouais. Donc c'était sans le préparer, sans que ce soit forcément une stratégie, mais plus une démarche d'inclusion. Finalement, ça t'a été super bénéfique dans le développement.
Oui, complètement, parce que justement, quand j'avais interviewé tous ces créateurs de marques, j'avais eu l'impression que majoritairement, c'était des gens qui avaient envie donc de créer quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'était pour répondre à leurs valeurs ou pas. Parfois, c'était un peu opportuniste. Mais c'était tout le temps une marque qui leur ressemblait 100%. Et quand j'ai voulu lancer ma propre marque, je me suis dit, je ne veux pas qu'elle me ressemble, enfin, je veux pas qu'elle ressemble qu'à moi, je veux qu'il y ait quand même, qu'elle attire quelqu'un, qu'elle réponde à des vrais besoins. Comme tu dis, voilà, je veux avoir une démarche inclusive pour que ce soit des produits qui parlent vraiment aux gens. Est-ce qu'il y a que moi qui ai besoin de voir des produits sans surpromesse, sans injonction de beauté parfaite, ou est-ce que ça parle à d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui manquent de confiance en eux parce que justement cette industrie et d'autres industries y concourent? Est-ce qu'il y a que moi qui veux des produits sains pour la santé écologique? Voilà, j'avais vraiment besoin de voir que c'était pas juste mon combat, mais un combat qui était partagé par d'autres personnes.
C'est ça, super. Écoute, on peut dire que tu as bien mené ta barque. Aujourd'hui, à presque 10 ans, qu'est-ce que où tu en es? Est-ce que du coup l'équipe a un petit peu grossi? Est-ce que tu es content, toujours aussi engagé? Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Est-ce que tu peux nous faire un petit point à date?
Oui. Alors, 10 ans après, je suis toujours aussi impliquée, motivée, passionnée. On va dire que pendant les premières années, c'était quand même plutôt un zoom sur les aspects écologiques de la marque, mais comme c'est vraiment des valeurs qui m'habitent intrinsèquement, maintenant j'ai un peu plus orienté mon discours justement sur ce dont on parlait tout à l'heure, les diktats de la beauté. Voilà, c'est un peu plus le combat actuel. L'équipe a grossi, puis je suis à nouveau en solo après deux longues années un peu compliquées suite à la conjoncture actuelle, inflation, post-Covid, mais aussi au fait que j'ai eu 2 enfants rapprochés et j'ai choisi de les garder avec moi pendant 1 an tous les deux. Donc du coup, j'ai mis un peu entre parenthèses les apicuriennes. Voilà, j'ai voulu profiter. Donc, maintenant que je suis de retour avec le petit dernier qui fait ses nuits, pleinement présent dans l'entreprise, il y a beaucoup de digital dans l'industrie cosmétique, ou pas que d'ailleurs, avec les réseaux sociaux, le marketing digital. Donc, j'essaye de retrouver un peu plus d'humains, avec plus d'échanges. J'ai toujours une communauté ultra fidèle qui me suit depuis le début. Plus de nouvelles qui sont arrivées au cours des 10 ans. Mais il y a toujours un socle très solide avec beaucoup d'échanges. Et l'idée, c'est de vraiment humaniser de plus en plus la marque, d'avoir des contacts avec les gens. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît au quotidien. Donc certes, je propose des produits sains pour la santé, écologiques, etc. Mais j'ai envie d'accompagner les gens en fait dans leur routine pour les aider en fait à utiliser moins de produits, qu'elles comprennent que la peau a des besoins simples. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne hygiène globale, pas seulement utiliser des produits beauté, mais prendre soin de soi de l'intérieur. Ça faisait partie du projet au démarrage, mais j'ai pas pu tout faire en même temps. Quand on est tout seul, on peut pas tout faire. Mais là maintenant, j'ai envie d'insuffler plus ça, dire que les produits cosmétiques, ça accompagne le soin de la peau, mais qu'on commence par l'intérieur, et ça, tu es très bien placée pour le savoir.
Je ne peux que valider cette approche, et évidemment.
Donc mon côté militant, on va dire, est moins fort, moins présent aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux accompagner les gens à être bien dans leur peau et leur montrer que les problématiques de peau, ce n'est pas solutionné à 100% par des cosmétiques, mais par plein d'autres choses.
Tout à fait, tout à fait. Une approche plus holistique, exactement. Ce terme joli qu'on utilise de plus en plus. Ouais. Voilà. Effectivement, tout est lié. Les personnes qui écoutent le podcast le savent, j'en parle tout le temps, beaucoup. Effectivement, il n'y a pas une solution miracle, que ce soit un complément alimentaire ou une crème. Nous ne sommes pas des magiciens. L'idée, c'est toujours de, effectivement, avoir une approche globale et puis équilibrer le mieux possible son hygiène de vie générale. Ce qui me plaît beaucoup dans ton histoire, c'est que j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes qui vont l'écouter, parce que tu viens pas d'un univers qui te destinait à être chef d'entreprise. Tu n'avais pas une grande confiance en toi, et je pense que du coup, par ça, tu ressembles quand même à beaucoup de gens qui se posent des questions et qui n'osent pas. On entend souvent les entrepreneurs qui réussissent dire « Ah mais moi, du jour au lendemain, j'ai eu cette idée, bam, j'ai lancé le truc, ça a été hyper rapide, ça a été un déclic, je me suis pas posé de questions, ça a tout de suite marché ». C'est très rare en vrai, ce genre d'aventure. Il y a beaucoup plus de gens qui sont dans ton cas, qui doutent, qui se posent des questions, et en fait… Finalement, ce que je retiens, moi, de ton histoire, c'est que en s'entourant de gens, en essayant de se poser des questions et surtout de suivre ses valeurs, on est capable de faire des milliers de choses, même si on n'a pas forcément confiance en soi. En s'entourant de personnes qui partagent aussi ses valeurs, on est capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, osons. Est-ce que tu aurais une petite phrase clé, une petite pensée, quelque chose que tu as lu, entendu, que tu aimerais partager, qui pourrait aider peut-être les gens qui hésitent, qui n'osent pas trop, qui se disent « Ah là là, mais moi j'aimerais, mais j'y arrive pas ».
Oui, il y a une phrase qui me vient parce qu'elle m'a apporté. Alors aujourd'hui, elle est un peu… c'est une phrase que beaucoup de gens utilisent, mais à l'époque, c'est pareil, il y a 10 ans, elle n'était pas très citée, mais… Cet esprit lié à la co-création, c'était « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et cette phrase, elle m'a vraiment portée parce que… c'est ce que tu as décrit tout à l'heure. J'ai su bien m'entourer, et à mon avis, c'est quand même quelque chose d'important quand on se lance dans un projet de création d'entreprise, c'est d'être bien entouré, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et ça m'a vraiment porté, je pense, si j'avais été trop en solo, j'aurais eu du mal à concrétiser le projet. Et cette petite phrase m'a suivi pendant un moment.
Je trouve que c'est une belle phrase de conclusion, parce qu'on peut se sentir un peu seul parfois face à ses envies et ses idées de projet. Parfait, écoute, merci beaucoup Carole. Je pense que tu vas apporter encore une fois ta petite pierre à l'édifice et aider, j'espère, des personnes qui se posent des questions et qui vont... à travers ton parcours, se rendre compte qu'il y a encore une autre façon possible d'aller au bout de certains projets et d'oser se lancer. Merci infiniment pour ce temps que tu m'as accordé. Je te souhaite une belle continuation et puis j'espère à très bientôt.
Merci Julie, à très bientôt et au plaisir.
Avant de conclure, je me permets de reprendre le micro quelques instants parce qu'on a continué à discuter avec Carole une fois l'enregistrement terminé. Et il y a deux, trois petites choses dont elle m'a parlé que je trouve hyper intéressantes à vous partager. La première, c'est que elle n'a jamais imaginé que son projet n'allait pas marcher. Pendant toute l'aventure, elle m'a expliqué qu'elle y avait toujours cru. Pourtant, c'était pas la reine de la confiance en elle, mais elle a jamais imaginé que ça n'allait pas marcher. On suppose, elle et moi, que c'est parce qu'elle était tellement portée par ses valeurs profondes qu'elle savait qu'elle était sur son chemin. La deuxième chose qu'elle m'a partagée, c'est la notion de patience. Très souvent, quand on lance une entreprise, quand on se lance dans un projet, on veut tout de suite des résultats, que ce soit pour perdre 10 kilos ou que ce soit pour lancer sa marque de cosmétiques, comme c'est son cas. La patience est une qualité indispensable dans la vie en général, je pense. C'est pas simple d'être patient, j'en suis le meilleur exemple, je suis plutôt très impatiente. Mais toujours est-il que dans l'entrepreneuriat, si vous avez un projet que vous avez envie de lancer, soyez patient. C'est le deuxième message que je trouvais important de ce qu'on s'est dit avec Carole après l'interview. Soyez patiente, c'est pas parce qu'au bout d'un an, vous n'avez pas encore atteint les chiffres que vous espériez que le projet ne vaut plus le coup d'être mené, donc patience et longueur de temps. Et puis le dernier point, qui n'est pas non plus chose aisée, mais qui est, je trouve, aussi très important à signaler, suivre son intuition. Effectivement, on en a peu parlé, mais en fait, comme je le disais juste avant, dans le fait que Carole n'a jamais imaginé que ça n'allait pas marcher, elle m'a avoué aussi avoir plusieurs fois suivi son intuition. Et en fait, elle a l'impression aussi que c'est ça qui l'a portée, parce qu'elle savait qu'elle allait dans la bonne direction, celle de son épanouissement personnel et puis celle de sa quête de sens. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit ajout parce que je trouvais ça intéressant dans la suite de notre discussion. Sur ce, l'épisode 133 de Quinoa touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura peut-être donné envie, vous aussi, de vous entourer, de vous former pour arriver à mener à terme vos projets, à oser vous lancer, en tous les cas, oser suivre vos valeurs et votre vie. Pour retrouver Carole et ses produits et tout ce qu'elle propose, ça se passe sur Internet, soit sur son site internet lesapicuriennes.com, soit sur Instagram lesapicuriennes. Je vous remettrai les liens dans la description du podcast. Et sachez que sur le site des Apicuriennes, vous avez accès à un coaching de 15 minutes par téléphone avec Carole, qui prend le temps pendant ce coaching de faire un point sur vos problèmes de peau et puis sur votre routine skincare, pour vous aider à basculer vers une routine peut-être plus minimaliste et surtout plus adaptée à votre peau. Donc n'hésitez pas à profiter de ce coaching qui est complètement offert et dont vous retrouverez le lien directement sur le site lesapicuriennes.com. Si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram, @juliecoignet-naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi envie ou besoin d'avoir cette dose d'inspiration et tous ces bons conseils chaque jeudi. Donc, merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Enfin, pensez à vous abonner à ma newsletter pour être sûr de ne rater aucun épisode du podcast, poursuivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt !